Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bon après-midi. Que l'amour, la joie, la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit Saint, soient avec vous, maintenant et toujours. Si vous me le permettez, tel que je l'avais laissé entendre à la fin de l'enregistrement de cet avant-midi, quelques mots pour conclure le thème sur l'esprit de pouvoir. Petite parenthèse, vous savez que l'esprit de pouvoir, inné ou acquis, continue même chez les gens à la retraite. Bien des gens qui ont été en autorité dans la vie, que ce soit la vie civile, l'enseignement, les professions libérales, les communautés, les institutions, habitués qu'elles ont été à décider, à commander, à réglementer, bref, à donner libre cours à leur esprit ou instinct de pouvoir, en prenant leur retraite, se trouvent souvent désemparés, car les occasions ne sont plus là, du moins en aussi grand nombre, de s'affirmer et d'exercer sa domination et son pouvoir. Et alors, phénomène assez amusant, on les voit souvent devenir impatients, intransigeants, en quête inconsciente de trouver d'autres occasions de donner libre cours à leur esprit de pouvoir en veilleuse. Et alors, ça va se manifester par des transferts sur leurs conjoints, sur leurs enfants, des impatiences sur la route, au restaurant. On les sent et on les voit aux aguets constants pour prendre en défaut, rouspéter, réprimander. Quelle triste manière de terminer sa vie. Au fin fond, ils et elles sont maintenant les grandes victimes de leur esprit de pouvoir qu'ils n'ont pas eu la chance de corriger pendant qu'ils étaient en fonction. Le pouvoir et son exercice, on le sait de tout temps et en tout lieu, n'a cessé de conduire tôt ou tard ses titulaires à des abus. On connaît les situations chez nos gouvernants, chez nos chefs de syndicats, nos dirigeants de profession, dans les masses médias, j'en ai causé cet avant-midi. L'Église, parce qu'elle est entre les mains d'humains faillibles, elle aussi n'a pas été épargnée tout au long de son histoire. Il y a eu des abus de la part de papes, de Rome, de congrégations romaines, de ses représentants, de nonces ou de délégués apostoliques, d'évêques, de prêtres, de religieux, de religieuses, de dirigeants laïcs, conscients ou inconscients, parfois même très bien intentionnés, sous toutes les formes imaginables et inimaginables possibles. L'abus de pouvoir se repère surtout à deux niveaux. D'abord, dans un changement de mentalité et d'attitude, de façon de voir, de juger et d'agir chez celui ou celle qui exerce le pouvoir. Et on le remarque également dans les faits qui impliquent les autres, qui sont sous leur juridiction et dépendent d'eux. Lorsque viennent des décisions, des orientations, des nominations ou des évaluations. Ces abus et ces déviations se retrouvent partout et constamment. En effet, à moins d'être exercé par un saint, une sainte, habité par une humilité infuse, qui se donne la peine de demeurer en un tel état, pas seulement jour après jour, mais presque d'heure en heure, le pouvoir même spirituel risque toujours de griser, de monter à la tête, de se détériorer peu à peu, sinon de se corrompre. On a beau savoir et croire que l'autorité et le pouvoir viennent de Dieu, surtout le pouvoir spirituel, qu'il faut les exercer en son nom, pour sa gloire et à sa manière, que sa grâce nous accompagne, que notre délégation est une pure gratuité, bienveillance, une mission temporaire. Il serait naïf et imprudent de croire que, grâce à l'avènement du renouveau post-conciliaire, tout à coup, maintenant, tous les nouveaux leaders spirituels, par un miracle de sa grâce, pour la première fois dans l'histoire de l'Église, ou par indulte spécial, auraient été ou sont, tout à coup, exemptés de tentations, de faiblesses, de chutes, d'erreurs ou d'abus dans l'exercice de leur pouvoir spirituel. Alors, concluons en disant que, en Église, il n'y a rien pour remplacer les bienfaits d'une bonne et saine et sainte autocritique, un examen de conscience périodique, une évaluation communautaire, du counseling spirituel, la monition et l'exhortation fraternelle et pourquoi pas, de temps en autre, une bonne interpellation fraternelle. Ensemble, disons donc au revoir et merci à une Église où règne, hélas, trop souvent, l'esprit de pouvoir. Et souhaitons une cordiale bienvenue à une Église où éclate à nouveau le pouvoir de l'esprit. Bien entendu, en note, il ne faut pas généraliser, juger ou condamner, ce n'est pas notre rôle. Dieu seul, qui sonde les reins et les cœurs, sait dans quelle mesure il y a abus de pouvoir, il y a esprit de pouvoir, et laissons-lui régler et étudier chaque dossier à son mérite. En terminant, je dirais, comme bouquet spirituel, que la meilleure façon de ne pas se prendre pour un autre, c'est de laisser l'autre, avec un grand A, nous prendre. Si je me laisse vraiment prendre par le Seigneur, je cours moins le risque de me prendre pour un Seigneur. Alors voilà, nous passons, si vous le voulez bien, au thème suivant, à cette cassette intitulée « Une Église en esprit de service, au service de l'esprit ». Et je vous invite à jeter, au moment où on fait ce passage, un regard sur les titres respectifs de ces deux enseignements enregistrés aujourd'hui. Même si vous en avez le goût de les mémoriser, de les intégrer en votre cœur, car en réalité, ces deux titres résume parfaitement l'ensemble de ce qui a été dit cet avant-midi et de ce qui sera explicité cet après-midi. Je l'ai redit encore une fois, une Église sous le pouvoir de l'Esprit ou sous l'Esprit de pouvoir. Point d'interrogation. Le choix est clair, c'est l'un ou l'autre. Et si c'est la moitié l'un, moitié l'autre, eh bien, on est pénalisé, quel qu'en soit le pourcentage. Ça doit être tout l'un et plus l'autre, c'est-à-dire sous l'esprit, sous le pouvoir de l'esprit et non pas sous l'esprit de pouvoir. Et l'autre titre, une Église en esprit de service, au service de l'esprit. Et à la vérité, je pourrais arrêter mon enseignement là, tout y est. C'est ce que nous allons voir cet après-midi. En quoi consiste l'esprit de service et qui va nous dire quel service rendre? Est-ce que c'est mon frère et ma sœur qui me demandent tel service et alors je dois rendre ce service-là? Ou bien est-ce moi qui est en autorité qui va décider à la place des bénéficiaires quel service leur rendre? Ou bien est-ce que ce serait l'un et l'autre bénéficiaires et intervenants, mais les deux se rejoignant sous la mouvance de l'Esprit-Saint, qui lui sait mieux que quiconque quels sont les services à rendre en Église à ce moment-ci. Vous avez le plan de l'enseignement. Nous allons immédiatement nous mettre à la besogne et passer au premier point. La volonté divine est très claire. nombreux textes bibliques qui nous invitent à exercer l'autorité en esprit, en état et en habit de service. Normalement, en Église, l'autorité devrait toujours s'exercer selon l'enseignement clair et net que Jésus a donné directement à ses apôtres. Relisons son enseignement rapidement ensemble. Vous savez que c'était immédiatement après la demande, pour le moins ambitieuse, de Madame Zébédée, la mère des apôtres Jean et Jacques, qui disait à Jésus, « Ordonne que dans ton royaume mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » C'est un peu comme si une maman disait directement au pape, nomme mes deux fils cardinaux et confie-leur les deux plus importants postes à tes côtés au Vatican. Je suis sûr que Jean-Paul II répondrait sûrement comme Jésus, doucement mais clairement, vous ne savez vraiment pas ce que vous me demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Bien entendu, cette requête a paru quelque peu déplacée, pour ne pas dire effronté, aux 10 autres apôtres, comme le précise la Bible au verset 24. Ils avaient entendu et s'indignèrent contre les deux frères, Jean et Jacques. Vous voyez, j'ai un bel exemple de transfert. C'est leur maman qui est allée demander ça, puis c'est les deux frères qui ont écopé du retour de manivelle. Et c'est alors que Jésus sort son mémorable enseignement sur la bonne manière en Église d'exercer l'autorité. Il dénonce l'esprit de pouvoir et de domination et donc l'ambition qui y conduit et valorise l'esprit de service et d'humilité. Parcourons ensemble ces quelques versets 25 à 28. Verset 25. Mais Jésus les appela, ses apôtres, et leur dit, « Vous le savez, les chefs des nations les tiennent sous leur pouvoir et les grands sous leur domination. C'est ainsi que le pouvoir politique agit. » Verset 26, « Il ne doit pas en être ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Verset 27. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Et l'essentiel, même l'intégrale de ce message de Jésus est repris dans un texte de Vatican II, dans le document sur la charge pastorale des évêques. Et je cite le texte du Concile. « En exerçant leur fonction de père et de pasteur, les évêques vivront au milieu de leur peuple comme ceux qui servent. Ils seront de bons bergers qui connaissent leurs brebis et que leurs brebis connaissent. De vrais pères qui excellent par leur esprit d'amour et de dévouement envers tous, si bien que tous acceptent avec reconnaissance l'autorité que Dieu leur a confiée. Ils rassembleront et éduqueront la famille entière de leur troupeau de telle façon que tous, conscients de leurs devoirs, vivent et agissent dans une communion de charité. » Fin de la citation du Concile Vatican II. Inséparable de cet enseignement sur la bonne manière d'exercer l'autorité en Église, il y a eu celui, non moins important, nous le savons, qui a suivi le lavement des pieds à ses apôtres. Et je cite, Jean 13, 12 et verset suivant. Lorsqu'il eut achevé de leur laver les pieds, Jésus prit son manteau, se remit à la table et leur dit, « Comprenez-vous bien ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres, car c'est un exemple que je vous ai donné. Ce que j'ai fait pour vous, faites-le vous aussi, sous-entendu à tous les autres. En vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Sachant cela, vous serez heureux si du moins, et notons-le bien en passant, vous le mettez en pratique. » Fin de la citation du texte biblique. Jésus insiste donc à la fin sur le fait qu'il ne suffit pas de savoir cela en principe et en théorie, qu'il faut vivre comme des serviteurs et être en esprit de service, mais que la confirmation et le bonheur se retrouvent dans la mise en pratique de cette recommandation. Quand Jésus dit « Vous m'appelez Maître et Seigneur », on pourrait paraphraser et actualiser, en parlant des successeurs de ces 12 apôtres, « Vous m'appelez Éminence, Monseigneur, Père, Monsieur l'Abbé, ma sœur, mon frère, supérieur général, provincial ou local, je ne suis pas plus grand que celui qui m'a envoyé et qu'en autorité je suis censé représenter. Laissez-moi donc, comme Jésus, vous démontrer mon et son amour en exerçant le service autorité humblement et simplement. » Donc, se livrer au service des autres et non se faire servir par les autres. Répondre à leurs besoins et à leurs désirs, et non tenter d'imposer les nôtres. Être prêt à donner sa vie en disant et rappelant courageusement la vérité, toute la vérité, risquer de perdre sa popularité, risquer d'être jugé, condamné, bafoué. Donc, agir comme Jean-Paul II, et non comme certains leaders qui tentent de concilier l'inconciliable et ont peur de vraiment prendre position. Saint-Pierre, dans sa première épître, chapitre 4, verset 10, nous dit ceci. « Mettez-vous chacun selon le don qu'il a reçu au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu variée en ses effets. Notons en passant qu'il ne faut pas couper la phrase en deux, c'est pas comme de bons administrateurs. Il a dit comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu variée en ses effets. Matthieu 23, 11. Jésus parle du sort qui attend les omnipotents, les imbus de pouvoir à la manière du monde. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Matthieu 23, 11. À nouveau, dans l'Épître de Saint-Pierre, chapitre 4, verset 12 et suivant, jusque dans le chapitre 5 et 14, et voici un extrait, « Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, non par contrainte, mais de bon gré selon Dieu. » Non par cupidité, mais par dévouement, c'est-à-dire esprit de service. N'exercez pas un pouvoir autoritaire sur ceux qui vous sont échus en partage, mais devenez les modèles du troupeau. Saint Paul, dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 6, « Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, donc le pouvoir par excellence, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. » Alors, je l'ai mentionné ce matin, l'esprit de pouvoir, on ne le retrouve pas uniquement dans l'Église, mais partout dans la société. Chez beaucoup de médecins, d'avocats, de politiciens, de travailleurs sociaux, de dirigeants syndicalistes, qui existent pour être en service auprès des gens, mais qui, hélas, à cause de leur connaissance, de leur prestige, de leur autorité, souvent s'imposent, plus ou moins consciemment, en esprit de pouvoir. Passons au deuxième point, l'esprit de service, ce qu'il n'est pas. Beaucoup d'hommes et de femmes prennent leur grand dévouement, le fait qu'ils ou qu'elles se désarment dans la vie, la générosité de leur engagement et de leur zèle comme autant de preuves qu'ils ont l'esprit de service idéal pour leurs frères et leurs sœurs. Ils ne comptent pas leur temps, ne comptent pas leur générosité, et ils croient que c'est ça l'esprit de service. Alors qu'en fait, ils et elles sont animés, sans peut-être le savoir ou s'en rendre compte, du plus pur esprit de pouvoir. En effet, ce n'est pas le degré de dévouement qui crée la différence véritable entre l'esprit de service ou l'esprit de pouvoir. Les plus grands tyrans de l'histoire ont tous été dévoués, ont tous été très dévoués pour leur peuple. Et en général, tous les autoritaires, les dominateurs, les puissants de la terre sont des gens très actifs, dévoués, dédiés à leur cause. C'est d'ailleurs ainsi qu'ils finissent par s'imposer. La grande distinction entre l'esprit de service que Jésus recommande à ses apôtres et à ses disciples et l'esprit de pouvoir qu'il dénonce, n'a rien à voir avec la quantité ou l'intensité de ses activités pour les autres, mais se situe au niveau de la mentalité spirituelle qui nous inspire à poser ces actes de générosité et de dévouement envers le prochain. Est-ce que je veux d'abord et surtout découvrir avec mon frère et ma sœur ses besoins, à lui et à elle, ses désirs, à lui et à elle, actuels, réels, afin de l'aider à trouver avec lui ou elle les meilleures solutions? Ça, c'est être en état de service. Je viens faire ou parfaire ce que seul mon frère ou ma sœur ne pourrait réussir. Je l'aide donc à prendre confiance, à prendre conscience, à voir plus clair, à grandir, à se valoriser. Ça, c'est de l'esprit de service. Si, au contraire, je pars de mes propres options à son égard, si bonnes soient-elles, que je mets mes projets au point et en marche, pour ensuite tenter de les faire accepter et adopter par les autres, ma mentalité alors et mon approche sont très souvent du type esprit de pouvoir. Mon autorité n'est pas service, mais commandement, imposition, directive, directivité. Même si je procède avec doigté, douceur et consultation, après coup. Et c'est surtout cette seconde approche qui est hélas la plus fréquente dans la majorité de nos diocèses. Certes, on se surmène, on s'époumonne, on se brûle même à la tâche, mais c'est la rançon du pouvoir. L'esprit de pouvoir met les autres à son service. L'esprit de service se met au service des autres. Bien entendu, les tenants de l'esprit de pouvoir vont nous déclarer avec conviction, avec chaleur, d'abord qu'ils veulent servir les fidèles. Ensuite, qu'ils tiennent compte de leurs désirs par des consultations, des sondages, des synodes, etc. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Un peu, beaucoup, comme dans le monde, on finit par proposer les besoins à avoir. Et les gens finissent par y croire sans trop s'en rendre compte. On décide en haut lieu des services à rendre. Les gens qui en demandent de nouveau ou d'autres se font débouter et traiter de marginaux. Donc, il ne faut pas confondre avec l'esprit de service recommandé par Jésus et jusqu'au don de sa vie, comme il l'a fait, avec nos essoufflements inhérents à l'hyperactivité, les défaites et les échecs encaissés, la critique et le déclin de son autorité. Nombre de personnes en autorité tâchent de sublimiser, ou plutôt de sublimer, ces épreuves et voudraient y voir le signe qui confirme leur abandon au Seigneur. Ils et elles voudraient redire avec saint Paul, « C'est quand je suis faible que je suis fort. » Or, à la vérité, c'est leur esprit de domination qui a étouffé, subtilement, camouflé sous leur service, leur vrai désir de servir. Passons au troisième point. La norme ultime est la source unique du véritable esprit de service. C'est le pouvoir de l'esprit. En Église, mes frères et mes sœurs, la toute-puissance de Dieu s'exprime en lumière et force, imprégnée d'amour et de miséricorde infinie, qui nous donne normalement la joie et la paix intérieure. Cette toute-puissance doit circuler à travers tout le peuple de Dieu, de haut en bas, par les chefs spirituels, vers les fidèles, et de bas en haut, par la participation des fidèles, vers les chefs spirituels et l'ensemble du peuple. Cette puissance divine se perçoit à travers ceux et celles qui la captent et la retransmettent fidèlement de haut en bas et de bas en haut comme étant la voix VOIX et la voix VOIE du Seigneur. Vatican II, dans le document sur l'Église, Lumen Gentium, au chapitre 2, paragraphe 12, précise clairement que l'Esprit Saint non seulement sanctifie le peuple de Dieu, le conduit et l'orne de vertu au moyen des sacrements et des ministères, exercés par les autorités et les pasteurs en poste, mais il, l'Esprit, dispense également parmi les fidèles de tout ordre des grâces spéciales qui les habilitent à assumer des activités et des services divers utile au renouvellement et à l'expansion de l'Église. Fin de la citation. Il doit donc y avoir, en Église, une remontée continuelle, stimulée, encouragée, facilitée et appréciée. On doit donc constamment être à l'écoute attentive de la voix, V-O-I-X et V-O-I-E, du Seigneur qui remonte de bas en haut, comme de la voix, V-O-I-X, V-O-I-E, du Seigneur qui vient d'en haut vers le bas. Jean 10, 4, 5, les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix, celle du Seigneur. Jamais elles ne suivront un étranger, c'est-à-dire quelqu'un en qui la voix du Seigneur est éteinte. Bien plus, elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas, et ne veulent pas reconnaître, la voix des étrangers. Normalement, la puissance humaine, le pouvoir humain, peut être utilisé modérément, cependant, dans l'exercice de l'autorité et de la vie en institution. Mais le pouvoir humain n'est là que pour valoriser, soutenir, amplifier, favoriser la puissance divine qui opère dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. Il ne faut jamais, au grand jamais, que le pouvoir humain, qui est instrumental, qui est auxiliaire, vienne freiner, faire écran, détourner ou éclipser la toute-puissance divine à l'œuvre dans les deux sens, de haut en bas et de bas en haut. Or, c'est ici l'un des plus grands malaises actuels, perçu et vécu, si souvent déploré, par l'ensemble des fidèles. Quand on considère le circuit de haut en bas, la puissance divine qui passe à travers les leaders et qu'on doit pouvoir repérer comme venant du Seigneur, c'est malheureux de le dire. Mais trop souvent, le pouvoir humain et les humains au pouvoir sont parfois et souvent beaucoup plus perceptibles et manifestes à travers nos chefs de file que ne l'est véritablement le pouvoir qui est de Dieu et qui opère à travers eux et elles en Église. Même si le vocabulaire et les thèmes traités sont de nature et d'allure spirituelle, la voix V-O-I-X et V-O-I-E du Seigneur cède habituellement la place à la voix purement humaine. On sent et on voit le pouvoir humain à l'œuvre qui, parfois, estompe, éclipse l'action et la perception du pouvoir divin qu'on s'attendrait normalement de capter à travers l'instrument. Et dans le second circuit, celui de la remontée de bas en haut, c'est le même drame. Quand la puissance divine à l'œuvre dans les organismes surnaturels de chaque baptisé et confirmé se met à produire des fruits, poursuit son œuvre sous forme d'inspiration, de message, de révélation, de vision, d'interpellation, de prophétie, de grâce mystique, et qu'un fidèle, ainsi éclairé et privilégié, veut et sent qu'il doit l'exprimer ou le partager, il et elle se heurtent presque toujours au pouvoir humain, qui parfois ne s'y intéresse pas, ou encore s'y oppose, et tente de faire douter ou d'étouffer le tout. La puissance divine est à nouveau mise en échec par la puissance humaine, le pouvoir des humains en autorité, dans sa voie descendante comme dans sa voie remontante. Il faut donc, en l'Église, prévoir une zone de rencontre entre ces deux circuits voulus par le Seigneur. Une rencontre assurée, heureuse et fructueuse, entre d'une part la puissance divine qui nous vient de haut en bas, via les personnes en autorité, chargées de nous faire entendre sa voix, avec un grand S, et d'autre part la même puissance divine qui nous vient de bas en haut, via les petits et simples fidèles de son choix, porte-parole, eux et elles aussi, de sa voix. Ce lieu, ce climat de rencontre entre ces deux circuits, rencontre de la même puissance divine qui vient de haut en bas et de bas en haut, exige que tous s'y présentent en esprit, en état, en habit de service, les uns pour les autres, les chefs spirituels pour les fidèles et les fidèles pour les chefs spirituels, qu'il n'y ait de part et d'autre aucun jeu de force, aucune suprématie, aucune pression, pas de pouvoir humain inutile, mais plutôt un goût et un climat de partage, d'entraide, de solidarité, où la complémentarité, l'unité dans la diversité sont à l'honneur, où les deux, en définitive, se discernent et se confirment mutuellement. Notons que ce que j'appelle la puissance divine, le pouvoir de Dieu, n'est pas une force extérieure contraignante, mais c'est une grâce qui opère dans notre organisme surnaturel qu'on a reçu au baptême et à la confirmation et qui est opérationnel depuis lors. Ce qui est le plus grave, c'est qu'on sous-estime et tente de nous faire oublier cette double lacune. Pour qu'on ne constate pas trop et dénonce trop le fait qu'on n'entend pas assez ou trop peu la voix du Seigneur nous parvenir de haut en bas, on nous fait entendre tout un carillon continu de toutes sortes d'autres voix. La voix des démunis, des sidéens, des blessés de guerre, et même la voix des sans-voix. Pour que la voix du Seigneur qui vient s'exprimer de bas en haut n'ait pas trop d'impact, de résonance, on nous conduit au doute presque méthodique, au nom de ce que l'on ose appeler la prudence, les risques, faut faire attention, faut pas tomber dans l'illusion, faut faire des discernements. Mais ce doute méthodique, cette mise en doute habituelle, mine la confiance spirituelle en soi et l'exercice de la liberté, et peu à peu assujettit la personne à ceux et celles qui font continuellement douter. Au début de l'Église, comme dans toute institution, il a fallu établir clairement qui avait le pouvoir et comment respecter ce pouvoir. Et les premiers apôtres, on peut lire dans les Actes des apôtres à bien des endroits, ont clairement et sans hésitation déclaré que pour eux, le pouvoir venait d'en haut et non d'eux. Tous ont donc pu voir comment opérait ce pouvoir divin au tout début de l'Église à travers les instruments limités qu'ils étaient. Après eux, à travers les siècles, quelqu'un ou quelques-uns, en quelque part, se sont peu à peu emparés, puis substitués, et enfin, se sont pris pour le pouvoir. Et on connaît la suite. Pour en sortir de ce brouillard pénible, il faut que les autorités en place, à l'heure actuelle, fassent à ceux et celles qui relèvent de leur juridiction, à l'exemple des premiers apôtres des premiers temps, qu'ils aient le courage d'affirmer et de redire souvent qu'en leur secteur d'Église, dorénavant, il est clair et net que le vrai pouvoir vient d'en haut et que tous, leaders comme simples fidèles, évêques comme simples prêtres, que tous doivent prendre les bons moyens de s'y brancher et en donnant eux-mêmes l'exemple. Ensuite, définir et vivre de manière convaincante, clairement, ce que c'est que l'esprit de service et le rôle d'un instrument du Seigneur. Alors, on me fait signe que le temps est écoulé. Nous allons, selon la bonne tradition, prendre un temps de pause et nous nous retrouverons dans une vingtaine de minutes.